Merci pour votre accueil. Donc je laisserai la place à Myriam après. Elle vous partagera aussi comment on est devenu Gédéon. Voilà. C'est elle qui a choisi de passer après moi. Donc voilà. Si vous n'entendez plus parler de moi, nous nous reverrons au ciel. Ce sont les paroles du cheikh Ibrahim, imam d'une mosquée du sud du Liban. Pour des raisons politiques, il fut incarcéré dans la plus grande prison de Beyrouth, la capitale du Liban. Ibrahim était paralysé et avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. Quand les Gédéons vinrent distribuer des Bibles dans la prison, il fit une bruyante manifestation. Il les menaça de toutes les malédictions d'Allah et du prophète Mahomet. Pourtant, des frères revinrent amicaux et pleins d'amour, offrant des Bibles aux détenus et discutant avec eux. Cela éveilla la curiosité d'Ibrahim, qui prit un jour la Bible d'un co-détenu et la lut plusieurs fois d'un bout à l'autre. Un soir, il s'éveilla parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Comme les autres détenus dormaient et qu'il ne voulait pas les réveiller, il prit à Dieu. « Ô Dieu, si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, si Jésus est vraiment ton fils et qu'il a guéri sur terre des paralytiques, s'il est mort sur la croix pour nos péchés, puis ressuscité, alors tu peux aussi me guérir. Si tu le fais, je te suivrai pour le restant de mes jours. » Là-dessus, il entendit une voix lui dire « Ibrahim, lève-toi et marche. » Mais il se disait qu'étant paralysé, il ne pouvait pas marcher. Alors il entendit à nouveau la voix « Ibrahim, lève-toi et marche. » Par trois fois, la voix lui parla. Alors il se souleva et découvrit qu'il pouvait marcher. Le lendemain matin, les autres détenus et les gardiens furent plus que surpris et firent venir un médecin. Celui-ci examina Ibrahim et conclut avec étonnement « C'est un miracle !» Quelques jours plus tard, Ibrahim entendit à nouveau la même voix. Pendant la nuit, « Ibrahim, lundi prochain, tu seras libéré. » Il reconnut que c'était Jésus qui l'avait guéri et qui lui parlait à nouveau. Aussi, il annonça dès le lendemain qu'il serait libéré dans une semaine. Le directeur de la prison se moqua de lui et lui expliqua qu'il devait encore rester en prison au moins 5 ans. Pourtant, le dimanche suivant, sa femme reçut un appel téléphonique du juge qui avait condamné Ibrahim. Son mari serait libéré si elle versait une caution de 1 000 $ au tribunal. Et c'est ainsi qu'Ibrahim fut libéré le lundi suivant. Ensuite, il se rendit dans une communauté chrétienne où se trouvaient aussi des Gédéons et leur raconta son histoire. Il déclara que dorénavant, il annoncerait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et aussi son Sauveur qui l'avait guéri. Quelque temps plus tard, les Gédéons reçurent un appel d'un hôpital de Beyrouth. On leur demandait de rendre visite à Ibrahim. En entrant dans sa chambre, il fut effrayé à sa vue. Ibrahim était couvert d'ecchymoses et de graves blessures. Il avait été battu par des gens de sa parenté parce qu'il avait témoigné de sa foi en Jésus. Il l'avait aussi menacé de le tuer s'il continuait ainsi. Mais Ibrahim déclara au Gédéon, je ne peux pas faire autrement que de témoigner que Jésus est mon Sauveur et le Fils de Dieu. Et si vous n'entendez plus parler de moi, alors nous nous reverrons au ciel avec Jésus. Ce fut la dernière fois que les Gédéons entendirent parler d'Ibrahim après sa sortie de l'hôpital. Donc les Gédéons, c'est une association qui est née en 1899 aux États-Unis à l'initiative de 3 représentants de commerce. Aujourd'hui, l'association compte 300 000 membres dans le monde, répartis dans 194 pays. Les derniers groupes créés sont le Qatar, la Syrie, le Vietnam et récemment le Soudan du Sud. Alors l'objectif des Gédéons, c'est amener des hommes et des femmes et des jeunes à Jésus-Christ par la distribution de sa parole. Voilà, tout à l'heure, Pascal vous parlait des petits bleus, voilà, c'est le petit bleu. et de s'émerveiller de ce que le Seigneur fait dans les cœurs avec sa parole. Au niveau mondial, l'association a distribué dans le monde entier 1,7 milliard de Nouveaux Testaments ou de Bibles en 93 langues depuis sa fondation, ce qui fait une Bible ou un Nouveau Testament distribué toutes les secondes et demie. On avait vu hein, au repas pasteur, à chaque fois qu'une seconde et demie, y a la parole de Dieu est distribuée dans le monde. En France, l'association existe depuis 1963 et compte une cinquantaine de groupes. Les Gédéons sont des chrétiens occupant des postes à responsabilité dans le monde. Leurs épouses sont généralement aussi engagées dans ce ministère. Spécialement dans le groupe de Lille, les épouses sont très très actives. Alors ces hommes et ces femmes reconnaissent Jésus bien sûr comme leur sauveur personnel. Ils croient que la Bible est la parole de Dieu inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, comme nous dit 2 Timothée 3, verset 16. Ils sont aussi membres d'une église locale. Nous, on est à l'église de la Madeleine, dans laquelle ils sont impliqués. Leur engagement parmi les Gédéons conforte l'appartenance au corps de Christ, et comme tout autre ministère qui stimule à le servir. Et c'est vrai que pour nous, ça a quand même... Ça a beaucoup boosté notre vie chrétienne. Le fait d'avoir toujours, vous voyez, on a toujours ça sur nous, parce que les Gédéons se réunissent une fois par mois et on fait une mensuelle, ce qu'on appelle la mensuelle. Alors on se réunit, on fait le point sur les distributions à faire dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les prisons, on fait le point. Et on a aussi, lors de cette mensuelle, la possibilité d'acheter ces petits bleus. Chaque Gédéon achète ces petits bleus. On achète ça à 1 euro. Et donc, on a toujours ça chez nous, dans notre poche. Un Gédéon doit toujours avoir un petit bleu dans sa poche. Donc, ça nous a fait vivre des expériences intéressantes. On a vu que le Seigneur prépare les œuvres à l'avance. Les œuvres préparées d'avance. Vous savez que la parole... Et on a fait des rencontres où le Seigneur a permis... Vous savez, on rencontre des gens, quelquefois on a un partage avec eux et on sent qu'on peut lui donner. C'est le moment. Et on a eu des réactions encourageantes, des gens qui ont dit, ben, c'est vraiment, ça tombe vraiment bien pour moi, j'en ai besoin en ce moment, des choses comme ça. Donc ça a vraiment changé les choses. Donc le ministère des Gédéons est un ministère de distribution dans les lieux publics. Donc les petits bleus comme ça sont distribués à la sortie des universités, des lycées. Des collèges aussi, on y travaille, dans les casernes, les prisons, dans les chambres d'hôtes aussi, dans les chambres d'hôtes et les hôtels, c'est ce trilingue-là, voilà. Et on a un trilingue comme ça qu'on met aussi dans les chambres d'hôtes et les hôtels, dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, c'est ce petit blanc, voilà, qui sont distribués par les épouses. Dans les foyers, les maisons de retraite aussi. Dans les maisons de retraite, on a un gros caractère aussi, ce qu'on appelle le gros caractère. Voilà, pour les yeux fatigués. Les Gédéons ainsi que leurs épouses ont un ministère de prière aussi. On prie régulièrement, on a une réunion prière toutes les semaines pour prier pour les distributions, pour la suite des distributions, pour les cœurs, pour que les cœurs soient touchés. Pour accompagner dans l'intercession les distributions effectuées, mais aussi pour tous les frères et sœurs Gédéons qui sont parfois aussi dans la souffrance. Il y a pas mal de malades dans le groupe de Lille en ce moment, il y a pas mal de gens touchés par la maladie, donc c'est aussi ces moments de prière, c'est aussi l'occasion de prier. Je m'appelle Ikram, j'ai 37 ans, je suis marocaine, je viens d'une grande famille de Fès, Sherfa, qui veut dire descendante du prophète Mahomet. Provenant d'une famille nombreuse, nous étions très riches et je vivais dans le luxe. Mon père, qui avait fait des écoles coraniques, était un homme très dur, violent, qui avait imposé l'islam à toute sa maison, et notre vie familiale n'était pas tous les jours facile. Cependant, enfant, j'ai compris assez tôt que Dieu habitait dans le ciel et qu'il pouvait être mon confident. Je ne savais pas que dans l'islam, on ne pouvait pas lui parler ainsi. Je parlais à Dieu et il répondait à mes prières. C'était magique. À 16 ans, je commençais à faire ma prière musulmane et je fus assidu pendant 2 ans. Mais malgré ma persévérance, je ne sentais pas la présence de Dieu au moment de mes prières. Je manquais beaucoup d'amour. Dieu ne comblait pas mes manques à travers l'islam. À ce moment-là, je n'avais peur de rien. J'étais révolté, je mentais, je volais. Je cherchais toujours des sensations plus fortes. Tout bascula l'année de mes 19 ans. Il y a d'abord eu mon divorce. Et perdant mon mari, j'avais tout perdu. Cette illusion de sécurité, d'amour, de bonheur, de paix, de joie, de vivre, d'espoir que je croyais qu'il me donnait. Je n'avais plus goût à la vie. Ensuite, mon père s'est fait prendre tous ses biens à cause d'un pot de vin qui nous a fait passer de la richesse à la pauvreté. Je ne pouvais donc plus faire d'études à l'étranger comme mes frères et sœurs, plus d'avenir, plus d'argent, plus d'amis. De plus, mes sœurs qui rentraient du Canada nous ont annoncé qu'elles étaient devenues chrétiennes. Pour nous, c'était clair, elles étaient dans une secte. C'est la honte, c'était la honte et le déshonneur. Et l'islam ne résolvait rien, au contraire. Je me suis enfermé pendant 6 mois. Je vivais, mangeais, fumais dans ma chambre, je dormais le jour et je restais éveillé la nuit. Je n'acceptais de voir personne et si quelqu'un me parlait, je me tapais des crises de pleurs, de colère et d'angoisse. N'ayant pas la force de me suicider, j'attendais la mort dans ma chambre, qu'elle vienne m'emporter. J'étais morte de l'intérieur. J'avais touché le fond de moi-même. J'étais devenue froide, dure, méchante, sans aucune pitié pour personne, agressive. Un jour, ma sœur, qui était revenue du Canada, rentre dans ma chambre prudemment et avec beaucoup de paix pour me dire « Tu sais, je voulais juste te dire que Dieu nous aime et qu'il a envoyé quelqu'un sur terre pour nous le dire. » J'étais profondément touché. Et je disais en mon fond intérieur, comment Dieu pourrait-il encore m'aimer alors que moi j'avais arrêté d'aimer les gens autour de moi-même. Je lui ai dit, mais as-tu trouvé cette idée ? Elle me répondit, où as-tu trouvé cette idée ? Elle me répondit, tout simplement ici. Et elle tenait un petit évangile rouge en sa main. Je lui ai dit, pose-le et sors. J'étais en colère. Mais touché par ce qu'elle avait dit, j'ai essayé d'en savoir plus sur cette personne. J'ai alors commencé à lire ce petit livre qu'elle m'avait laissé. J'ai pris, pendant les 3 mois qui ont suivi, les 3 livres sacrés, la Torah, l'Évangile et le Coran. Et j'ai commencé à les lire, les relire, les comparer entre eux. J'étudiais soigneusement le pourquoi de la venue de chaque prophète, tout en priant Dieu de me guider et de me faire comprendre avec simplicité la grandeur de ces mots sacrés dans ces 3 livres. Pour moi, c'était clair. Il y avait des contradictions. Donc, quelqu'un mentait. J'avais intérêt à découvrir la vérité, car c'était de mon âme qu'il était question. Je décidai, terrifié, de poser cette question à Dieu directement, afin qu'il me dise si je devais suivre Moïse, Jésus ou Mahomet. Dieu, je vais faire un deal avec toi. Je te demande d'exaucer 3 demandes impossibles. Et si tu exauces les 3, alors je suivrai Jésus. Si tu exauces une partie des 3, ça voudra dire pour moi que je dois rester avec Mahomet. Ces 3 demandes étaient vraiment impossibles à réaliser sans l'aide de Dieu. Dieu m'a répondu. Le lendemain, le premier s'est réalisé et les 2 autres ont été exaucés dans les 2 semaines qui ont suivi. Donc je compris que Jésus était le chemin de la vérité. Le message était clair. C'était une continuité de la Torah. Donc je devais respecter moi aussi le deal. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fait cette petite prière qui était inscrite à la fin de ce petit évangile. À la fin du petit bleu, il y a ce qu'on appelle le plan du salut. C'est ce qu'elle veut dire. À la fin, il y a la possibilité de signer même ce petit plan du salut. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai fait cette première prière qui était inscrite à la fin de ce petit évangile où je donne ma vie à Dieu en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Afin que mon âme lui appartienne. Et je lui ai confessé combien j'étais raté. J'avais raté ma vie sans lui et combien j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Je me suis repenti de tous mes péchés dans le passé et j'ai apposé ma signature pour sceller le pacte avec Dieu. J'ai fermé les yeux et j'ai bien dormi. Ensuite, petit à petit, en laissant Jésus habiter en moi, l'Esprit de Dieu a commencé à nettoyer toutes les choses qui étaient sources de souffrance, de malheur, de chute dans ma vie. Il m'a guéri de mon divorce et a su remplir tout le vide qui était en moi par son amour. Il a restauré ma relation avec ma mère, et grâce au pardon, une nouvelle relation est née. Dieu a restauré mon cœur, tant brisé. Ce que les psys ont essayé de faire, Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, l'ont fait, avec tout leur amour, et continuent à le faire. Et surtout, Jésus m'a appris à compter sur son aide pour vivre ma vie. Longue est la liste de tous les bienfaits et les miracles de Dieu depuis ma conversion. Mon père, qui voulait nous faire mettre en prison, après 4 ans, a lui aussi donné sa vie à Jésus, avant de partir dans la gloire. Dieu a béni toute notre petite famille, car presque tous sont devenus chrétiens. Pour tous, nous étions devenus des mécréants, mais moi je savais que j'avais réellement touché la lumière dans mes ténèbres. Ma plus grande joie sera quand je serai enfin avec lui. Donc Ikram s'est engagée il y a maintenant 18 ans. Elle est maintenant active dans l'église de Pentecôte de Saint-Omer. Vous voyez, c'est dans la région, conduite par le pasteur Robert Després. Je ne connais pas le prénom de son mari, c'est possible, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais je... Tu connais ? Donc les Gédéons et les épouses ne sont bien sûr pas les seuls à distribuer la parole de Dieu dans le corps de Christ. Bien sûr, chaque chrétien a la possibilité. Je vous encourage d'avoir toujours un petit Nouveau Testament. Il n'y a pas que les petits bleus, il y a plein d'autres formules. D'avoir toujours la parole de Dieu sur vous. Ils sont simplement un ministère complémentaire. Ils sont même un soutien pour les églises, parce que parfois il y a des distributions qui sont faites pas loin des églises. Donc il peut y avoir aussi des retombées dans les églises, des gens qui viennent dans l'église. Parce qu'après, il faut bien qu'ils rejoignent une église, c'est quand même l'objectif. Donc ils peuvent arriver dans l'église en disant, ben voilà, j'ai reçu ça, j'aimerais en savoir plus. Et là, on compte sur l'église pour être évidemment un relais. Donc il est même un soutien pour les églises qui sont dans les secteurs de distribution, car nous sommes engagés dans le même combat de la foi. Selon 1 Timothée 6, verset 12. Et donc cette parole de Dieu semée aux abords des églises peut aider aussi à porter du fruit, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est beau ça, hein ? Vous pouvez nous aider de différentes manières. Votre accueil d'aujourd'hui est une façon bien sûr de nous soutenir. Vous pouvez nous aider aussi dans la prière, pour prier pour toutes ces distributions. Et quand vous voyagez, vous vous arrêtez dans les hôtels, c'est bien aussi de manifester votre déception de ne pas trouver ce livre dans la chambre, parce que la déception des clients est souvent retient l'attention de ceux qui tiennent les hôtels. Donc un petit Nouveau Testament comme ça coûte 1 euro. Donc tous les dons perçus, que ce soit des églises ou d'ailleurs, sont exclusivement consacrés à l'impression de la parole de Dieu. Ah, vous savez, il y a des gens qui ont un peu peur que l'euro se casse la figure du jour au lendemain. Vous avez déjà entendu cette pensée-là. Il y a un peu cette idée qui flotte que... Bon, il y a aussi la parole de Dieu qui en parle. Hein, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine et surprenante, c'est peut-être ça aussi qui fait penser à ça. Donc, donc la chute de l'euro, hein. Donc il y a des gens qui conseillent d'acheter de l'or, hein, pour éviter cette chute. Vous avez déjà entendu cette pensée, hein. Et ben voilà, si vous voulez changer votre argent en or, la parole de Dieu ne dévalue pas. Elle ne dévalue pas. Il est le même hier et aujourd'hui. Voilà. Donc après, si certains se sentent appelés, ils peuvent aussi rejoindre notre groupe, hein, sachant que ce sont des couples qui peuvent être Gédéons. Donc l'objectif des Gédéons, c'est 100% des pays touchés dans le monde, évidemment. Et pour 2020, c'est 100 millions de Bibles distribuées chaque année. Voilà. Alors je vais avant de vous lire un dernier témoignage, je vous remercie pour votre accueil. Hein, merci de... Et on remercie aussi surtout le Seigneur, hein, pour son œuvre, parce que bien souvent on est émerveillé par ce qu'il fait par sa parole. Nous on donne, mais après la rencontre entre un cœur et la parole de Dieu, c'est merveilleux. Donc on remercie le Seigneur aussi de nous accorder la grâce de travailler à l'avancement de son règne. Donc qu'il vous encourage aussi dans votre travail ici à Wavrin, et que vous connaissiez la joie de porter du fruit pour sa gloire. Le samedi matin, à la Convention internationale de Chicago, pendant la séance de travail, un Gédéon d'Azerbaïdjan a été présenté par l'intermédiaire d'un interprète. Il a parlé de sa conversion qui a eu lieu grâce à un Nouveau Testament que lui avait donné un ami. Il a dit ensuite combien il aimait distribuer la parole de Dieu et parler aux autres du Seigneur. Un seul problème, son zèle pour le Seigneur, lui cause des problèmes avec son gouvernement. Il a été arrêté et mis en prison, comme des millions de gens l'ont été au travers des âges pour leur foi. 3 jours plus tard, alors qu'il n'avait reçu ni nourriture, ni eau, un garde lui demanda « Comment allez-vous ? » Il répondit « Je vais bien. » Le garde lui répondit qu'il ne pouvait pas aller bien puisqu'il n'avait eu ni eau ni nourriture depuis 3 jours. Le prisonnier affirma qu'il allait vraiment bien. Et ensuite, il bénit le garde. Le garde n'en croyait pas ses oreilles. Il alla raconter cette étrange histoire à son supérieur. Ils sont revenus tous les deux. Et le supérieur a recommencé la même conversation avec le chrétien prisonnier. À nouveau, la même déclaration. « Vous ne pouvez pas aller bien. » Le prisonnier réaffirma qu'il allait bien et bénit l'officier. S'ensuivit une conversation plus longue, le partage de sa foi, et le prisonnier amena le garde et l'officier à une connaissance à salut du Seigneur Jésus-Christ. Ce Gédéon, comme Paul et Silas dans leur prison de Philippe, a choisi de se réjouir et de louer Dieu au lieu de pleurer sur sa situation. Et comme Paul et Silas, il a été libéré. Le garde et l'officier sont intervenus en faveur et ont tout fait pour qu'il soit relâché. Les deux hommes ont ensuite repris contact avec lui et ont demandé des Bibles pour les prisonniers des institutions pénitentiaires de la région, grâce à la fidélité à Dieu d'un seul chrétien. 3 500 Nouveaux Testaments ont été distribués dans les prisons d'Azerbaïdjan. Que le Seigneur soit béni. Donc je vais laisser la place à Myriam, qui vous parlera un peu de la façon originale que le Seigneur nous a appelé à devenir Gédéon. Voilà, merci.
Non, c'est pas pour moi. Non, je veux pas. Non. En fait, c'est un petit peu ça que j'ai dit, ou qu'on a dit ensemble, à 2 reprises, si c'est pas 3. Quand on avait un ami Gédéon engagé qui nous en parlait et qui nous disait « Mais vous devriez, vous avez le profil, vous devriez être Gédéon. » Jusqu'au jour où ils ont fêté, donc c'était un couple qu'on connaissait du temps où François était objecteur, donc quand il était jeune. Et on se connaissait quand on était sur Orléans et ils s'étaient déménagés dans Charente. Et on avait l'occasion de temps en temps, c'était de façon vraiment épisodique, on se retrouvait comme ça tous les 5 ou 7 ans, voilà. Et à chaque fois, il nous reparlait de ce ministère Gédéon. Et bon, ça nous faisait... enfin, ça faisait peur, en fait. On avait sans doute une image un petit peu fermée. Voilà. Et puis, et jusqu'au jour où il nous invite à un anniversaire, donc en Charente, avec d'autres amis de la famille et notamment un couple Gédéon avec qui évidemment on a sympathisé et qui nous ont vraiment vraiment comment dire pas du tout fait pression sur nous. Ils ont plutôt parlé de ce que eux vivaient, en fait. C'est plutôt ça, et c'est ça d'un seul coup on a réalisé vraiment ce que ça voulait dire. Et je pense que le Seigneur aussi il nous prépare, hein, c'est lui, tout se fait en son temps. Et jusqu'à ce moment-là où pour nous c'était comme une évidence. Ben oui, mais bien sûr, on va être Gédéon, on va signer. Alors c'était un cadeau qu'on leur faisait aussi, c'était un anniversaire, ils célébraient un anniversaire. C'est sûr que pour eux c'était aussi un beau signe, hein, puisqu'ils nous en avaient parlé plusieurs fois auparavant. Et du coup, ces images que je devais avoir des Gédéons, sans doute je me disais, mais non, c'est pas pour moi, ils sont trop bien. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça parfois. Hein, on s'interdit des choses parce qu'on se dit, mais non, mais nous, on n'y arrivera jamais. Ils sont trop forts, ceux qui font ça. Enfin, voilà, on a des images comme ça un petit peu. Et en fait, on s'est rendu compte que, ben non, c'est une vie de service finalement, c'est se mettre au service. Et j'ai plutôt appris, hein, l'humilité, enfin, parce que quand on va dans les distributions, on compte plus sur nous, hein, c'est pas des hommes forts, on dépend de la grâce de Dieu finalement, on est tous dépendants de la grâce de Dieu, On ne sait pas, c'est une aventure à chaque fois, des nouvelles rencontres. Et vraiment, j'ai appris aussi voilà, comment on pouvait dépendre de Dieu. C'est lui qui nous donne la force. Qui nous, voilà. Et on est au service. On est au service des uns et des autres, au service de Dieu, et aussi au service des uns et des autres. C'est vraiment une dimension aussi que j'ai expérimentée. Et c'est une grande ouverture, comme François le disait. Hein, on est des chrétiens, on se retrouve d'églises très différentes. C'est vraiment une ouverture. Hein, on sort du cadre local, de ce qu'on peut vivre, des problèmes aussi. On sort de tout ça pour vivre une autre dimension qui nous ouvre l'esprit, qui nous ouvre le cœur, et qui nous permet aussi voilà, d'apprendre à peut-être aussi à aimer plus. Hein, on est aussi dans cette dimension que tu rappelais tout à l'heure. Voilà. Pour nous aider, pour nous aimer plus les uns les autres aussi, se mettre au service de notre prochain. Voilà, donc au niveau des épouses, c'est pareil, quelquefois dans le monde, chacun cherche sa place. Pendant longtemps, on disait que le ministère Gédéon, c'est un ministère d'hommes. Et en fait, on est tous différents. Hein. Les hommes ont des rôles différents, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont mieux ou moins bien. Enfin, c'est différent, c'est tout, il faut apprendre la différence. Et nous, on fait autre chose. On va dans les cabinets médicaux. On a des réunions de prière. On soutient nos vaillants. Et puis on distribue aussi avec eux aux sorties de lycée. Souvent, on est ensemble, de toute façon, hommes et femmes, tous les volontaires. Et ce que j'apprécie aussi dans ce ministère, c'est qu'il n'y a pas de pression. C'est vraiment, je crois, il faut que chacun se sente appelé. Dans les distributions, alors on regarde évidemment nos emplois du temps. Oui, là on peut, là on peut pas. Il y a personne qui vient nous dire c'est vraiment chacun est responsable, s'implique ou pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on respecte la liberté des uns et des autres. Il y en a qui vont pas venir aux distributions parce qu'ils sentent pas. Ils sont peut-être pas appelés à ça. C'est pas grave. Ils vont être sans doute plus appelés à prier. Voilà, on est vraiment respecté dans nos différences, dans ce que le Seigneur nous appelle les uns et les autres. Et ça, c'est une grande richesse. Et alors, François parlait tout à l'heure des petits Nouveaux Testaments qu'on a sur nous. Et alors, quelquefois, c'est ce qu'on vit aussi ensemble, c'est que... Alors, moi, je reconnais que François, il a vraiment ce don-là, hein, de pouvoir comme ça donner facilement. Enfin, et quelquefois, je lui dis, quand on est à deux, je lui dis, t'as donné à ce monsieur enfin, Il me dit, non. Alors, souvent, moi, je le pousse. Alors, je lui dis, mais va. Mais je sais que c'est, voilà, parce qu'il sait le faire et voilà. Alors, on est complémentaires. Moi, je vais plutôt lui dire, mais va. Et lui va y aller. Et c'est un ministère aussi comme ça où, voilà, on est à deux et on fait les choses différemment, mais on est à deux. Et puis, on se complète. Voilà, on apprend aussi à se compléter. Ça, c'est super. Voilà, on pourrait encore dire beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai que dans les distributions, quelquefois on a un peu peur, hein, quelquefois c'est vraiment une aventure, hein, on ne sait pas trop où on va, et quelquefois on vit des choses, mais c'est là où on voit la grâce de Dieu. Oh, des gens qui, quand ils le prennent, on dit, on a un petit cadeau pour vous. Oh, et quelquefois on voit, mais merci, mais c'est trop gentil. Enfin, on est vraiment récompensé. Hein, le Seigneur, voilà, il connaît nos craintes. Et il nous réconforte à chaque fois et on vit des choses merveilleuses d'être à son service et de vivre des choses comme ça, hein. Ça c'est sûr, hein. Ou des gens quelquefois moi j'ai vu qui sont venus chercher, ils ont vu que tout le monde avait quelque chose, ils sont rentrés dans leur voiture puis d'un seul coup hop ils sont ressortis, ils disent, moi j'en ai pas eu. Donc on vit des choses quand même vraiment encourageantes et formidables, hein. Très 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 rares sont les situations compliquées, difficiles où on est rejeté, c'est vraiment très rare, quoi. Voilà. On est au service. Voilà, je sais pas si.
Non ? On mettra des petits flyers de si vous voulez comprendre un peu mieux le ministère. On laissera ça sur la table. Voilà. Merci beaucoup.